bienvenue à cette première séance qui est grave, au vu de son intitulé « Vie et mort des revues culturelles ». Alors, comme Patrick vient de l'expliquer, je vais donner la parole aux communicants, leur demander de respecter vraiment les 15 minutes, sinon Patrick va me faire de gros yeux. Je ne présenterai pas les revues pour sauver du temps, mais plutôt les communicants. Alors, je commence par Mathieu Arsenault, qui se trouve à ma droite. Mathieu est un des membres fondateurs d'OVNI, et c'est d'OVNI qu'il va nous parler, et collabore régulièrement à Spirale. Il a fait paraître Album de finissant chez Triptyque en 2004, salué par la critique. Sa thèse de doctorat, Le lyrisme à l'époque de son retour, apparu chez Nota Bene en 2007, de même que Vue d'ici chez Triptyque en 2008. En octobre 2008, une version de Vue d'ici a été mise en scène par Christian Lapointe et le théâtre Périllot Théâtre La Chapelle. Il multiplie aussi les lectures publiques, Poésie dans les parcs, Slam Montréal, Off Phil, Off Festival de poésie de Trois-Rivières. Depuis septembre 2008, Mathieu Arsenault effectue un stage postdoctoral à l'UQAM. Il nous parle donc de la revue OVNI, son titre, s'il n'a pas bougé, est le suivant, de l'identité virtuelle à l'objet actuel, la fondation d'OVNI. Mathieu.
Alors, bonjour. Oui, je suis le seul à ne pas parler de mort de revue, étant donné qu'on a seulement un numéro de sortie, ça annonce déjà très bien. Et puis, c'est ça. Puis j'espère que si ce que je dis est peu ou pas pertinent, vous allez vous souvenir de nous à OVNI comme des gens idéalistes purs qui pensent encore qu'ils peuvent tout réussir quand ils mettent du cœur, puis que c'est les idées qui mènent le destin de la revue. Alors, c'est ça, notre revue, dont le seul numéro paru jusqu'ici me présente en couverture. ça n'a pas rapport avec le fait que je sois dans le comité. La revue OVNI, c'est un magazine, c'est plus qu'une revue, c'est un magazine qui renferme des chroniques portant sur l'art, la culture, avec également une section de création qui est encore, qui va être déjà présente au numéro 2. Puis c'est un magazine qui doit paraître, si tout se passe bien, trois fois par année. Puis on espère que ça va bien se passer. La revue s'est construite en fait sur les restes de la défunte revue du Cartanier. Il faut dire que OVNI est affilié au Cartanier, la même structure économique et éditoriale. Puis on est venu répondre en fait à une nécessité que la revue du Cartanier à laquelle la revue du Cartanier ne pouvait plus répondre. C'est une nécessité d'adjoindre la pensée aux expériences de création littéraire que la revue du Cartanier privilégiait. C'est-à-dire que la revue du Cartanier, c'est une revue qui était de création et assez qui donnait dans une littérature plus exigeante, une poésie d'expérimentation. Et puis, la revue OVNI, ce qu'elle cherche à faire, c'est de reconnaître qu'il y a aussi une nécessité, même une urgence, de penser l'actualité, une actualité esthétique qui permettrait de penser notre époque, de penser quelles images, quels discours, quels problèmes, de quels problèmes esthétiques est constitué notre époque. En fait, ce que cette revue-là cherche à faire, en pensant à l'actualité esthétique de son époque, c'est à s'intéresser aux manifestations les plus significatives qui appartiennent autant aux disciplines consacrées, la littérature, l'art actuel, la musique, le cinéma, la danse, qu'à la culture populaire, commerciale ou mass-médiatique, c'est-à-dire il y a une grosse dimension design graphique, on s'intéresse également aux jeux vidéo, aussi au sport. On a un article dans le numéro 2 sur le skateboard. Qu'est-ce qu'on peut penser dans l'actualité à partir du skateboard sur l'actualité esthétique? Puis on s'intéresse aussi au roman graphique. En fait, on s'intéresse à... On n'est pas des gens, des consommateurs de culture spécialisés. On s'intéresse à tout dans la mesure où il y a quelque chose à penser là-dessus. Puis c'est là-dessus vraiment qui est notre ligne directrice. On cherche pas pour ça à faire le portrait le plus exhaustif de la production esthétique de notre époque, mais c'est vraiment à trouver dans chacun de ces domaines-là qu'est-ce qui est à penser, qu'est-ce qui est pertinent, puis en quoi est-ce que ça pourrait définir dans quel monde esthétique culturel on vit. On cherche à trouver, en fait, on trouve tout ça, tout ce qu'on vit, c'est avec quoi on est en contact, ce qui permet de travailler dans tous ces domaines-là. Puis c'est ça, pour vous donner des exemples de ce qu'on a à venir ou dans les derniers numéros, on a eu un article, c'est ça, sur le skateboard. On a un truc qui s'en vient sur les guides voyage des lieux imaginaires. Il y a Marc-Antoine Coffaneuf qui s'occupe il s'intéresse beaucoup à la performance, au recoupement entre la performance puis le divertissement. Bientôt, on va avoir une bonne entrevue avec Catherine Mavrikakis sur le cynisme en littérature. Puis il y a aussi des trucs sur l'art brut en musique. En fait, ça ratisse large, mais on espère que ça... Il y a quand même une espèce de continuité à travers tout ça. Mais en fait, cette continuité-là, c'est aussi dans le format qu'on a décidé d'adopter, puis en travaillant à construire la revue, autant ça a toujours été aussi important de s'occuper du design puis du format que de la facture visuelle que du contenu. C'est-à-dire que ça vient à l'idée de faire un magazine, comme on en parlait tout à l'heure, on n'a pas nécessairement le temps, toujours le temps de s'intéresser au... De tout lire une revue, mais on a décidé d'accélérer, de produire une espèce de facture visuelle qui permettrait d'avoir un plaisir autant en feuilletant la revue qu'en la lisant d'une couverture à l'autre. Les modèles dont on s'est inspiré pour construire la facture visuelle autant que la sélection des contenus, c'est des revues nord-américaines, anglaises, un peu partout dans le monde, qui s'appellent The Believer, Foam, iMagazine, Freeze. Puis c'est des magazines qui, comme nous, ratissent large du point de vue du contenu, mais qui ne donnent jamais l'impression de l'éparpillement. Et puis, une des tâches qu'on s'est données, justement, c'est d'arriver avec un format graphique qui permettrait de répondre justement à la nécessité de penser l'actualité esthétique en essayant de donner un design qui serait aussi ancré dans cette actualité esthétique-là, de manière à permettre au lecteur de situer intuitivement et immédiatement le propos dans la facture visuelle, de faire fonctionner tout ça ensemble, le contenu et le graphisme. Puis... Justement, si on emploie le format du magazine, c'est pour donner une espèce de rythme plus rapide qui tend à s'éloigner du ton posé, d'un essai qui courrait sur une dizaine de pages pour arriver à des textes courts, punchy si possible, mais qui vont, puis ça c'est une des lignes directrices, qui vont jamais rien sacrifier à la pertinence du propos, à la rigueur de la pensée. C'est pour ça qu'on fait un gros travail éditorial là, sur les textes qu'on reçoit présentement pour s'assurer que justement le rythme soit là, mais il n'y a aussi aucune espèce de sacrifice fait à la rigueur du propos, à la rigueur de l'argumentation des textes qu'on présente. Une autre des trucs qu'on a fait quand on a élaboré le projet de revue, c'était de mettre de l'avant l'idée de chroniqueur récurrent, c'est-à-dire qu'on veut vraiment mettre en place une identité des chroniqueurs qui va permettre à chaque numéro de suivre, qu'on puisse suivre les intérêts, les intuitions d'individus plutôt que de faire des comptes rendus qui seraient plutôt anonymes. En fait, un des projets d'OVNI, c'est d'arriver à nous donner un espace où on pourrait s'épanouir, se construire une identité pour chacun, de donner un lieu où on peut devenir des essayistes de la culture. Dans la mesure du possible. Et puis, c'est pour ça qu'on travaille... Le travail qu'on fait en comité est très serré. On discute vraiment beaucoup, puis on se relie beaucoup aussi, puis on retravaille... On se commente jusqu'à ce que les textes soient satisfaisants pour tout le monde. Puis, un des trucs aussi qui est très... qui prend beaucoup de temps, c'est justement travailler aussi au design, s'assurer à ce que chaque article ait une... à chaque article vienne répondre la meilleure présentation visuelle possible. Et puis, Éric Larochelière, l'éditeur, je ne sais pas si vous le savez, mais il est complètement freak de typographie. On peut passer des jours et des jours à trouver la typo qu'il faut. Et puis, ça, en fonction de... ou la présentation graphique... qui va faire fonctionner le mieux ce qu'on a à dire. Et puis un autre des avantages à travailler avec Éric Larochelière du Cartalier, c'est que toute l'expertise qu'il a construite depuis a mené la revue du Cartalier sans subvention pendant plusieurs années. Et puis tout le travail qu'il effectue sur la présentation soignée de ses livres aux éditions du Cartalier, ben ça fait en sorte qu'on peut arriver avec vraiment peu de moyens à avoir une revue qui a l'air de coûter plus cher que ce qu'elle coûte en fait. Puis depuis le lancement, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a la réponse est vraiment excellente. Autant du point de vue de la publicité, des publicités qui arrivent, que les abonnements, puis le lectorat aussi. Faut dire qu'on n'avait pas des attentes en dehors de nos du raisonnable, mais en fait le de toutes les productions du Cartalier, c'est assurément la revue OVNI qui a jusqu'ici connu le plus de succès. Et puis, bon, ben, c'est ça. L'idée de faire un magazine aussi, c'était, il y avait derrière l'idée de faire un magazine cette question-là aussi, de pouvoir essayer d'avoir une espèce de distribution qui serait plus vaste qu'une revue culturelle spécialisée, parce que en fait, les éditions du Cartalier, puis la revue du Cartalier, c'est toujours posé cette question-là, comment faire pour rejoindre le plus de monde possible sans sacrifier au contenu qui reste quand même à chaque fois exigeant. Et puis, c'est ça. Bon, je vais conclure en disant que je ne sais pas s'il y a une revue qui va te présenter dans ces journées d'études-là qui a seulement un numéro de sortie. Et j'espère qu'on est aussi la revue qui a le financement le plus précaire. Mais rien de tout ça va nous permettre d'avancer. Je parlais justement avec Éric hier, puis il nous disait que si jamais, au pire des cas, on peut quand même continuer. Il n'y a pas de problème. On va travailler gratuitement. Et puis... il n'y a rien qui va nous voir, qui va pouvoir nous arrêter. On garde notre enthousiasme et notre naïveté idéaliste. Merci.
Merci. Alors, après la fondation La Durée, je vous présente Pierre Lefebvre. À ma gauche, rédacteur en chef de la revue Liberté. Il a réalisé plusieurs documentaires radiophoniques pour Radio-Canada. Il est l'auteur de deux pièces de théâtre, Lou, mise en lecture par Alexis Martin à l'Espace Libre en 2005, et L'Ortie, mise en scène par Daniel Brière et présentée en ce moment à l'Espace Libre jusqu'au 6 décembre 2008. Il est donc rédacteur en chef de la revue Liberté et sa communication s'intitule « Vie, mort et vie de liberté ».
Alors, ben, bon matin tout le monde. Ben, écoutez, d'abord, je vais commencer par dire que je suis un praticien, donc je vais y aller vraiment dans le concret. Et donc, en fait, la question à laquelle il fallait répondre était, si je me souviens bien, une revue doit-elle mourir? Donc, je ne sais pas si... Enfin, je crois que certaines revues doivent mourir. Mais, enfin, toujours est-il que des revues peuvent mourir, mais elles peuvent aussi renaître. Et donc, je vais simplement vous entretenir de l'expérience concrète de Liberté qui va fêter, donc, l'an prochain, son 50e anniversaire, ce qui est quand même pas rien. Donc, bon, écoutez, comme on n'a pas... Enfin, je dois me limiter à 15 minutes, je ne vais pas vous faire l'historique au complet de la revue. Bon, on sait que dans les années 60 et 70, ça a été une revue qui a eu une importance fondamentale dans la vie intellectuelle du Québec. Mais toujours est-il, bon, il est difficile de mettre une date exacte, mais bon, on peut toujours dire que dans les années 90... Liberté a perdu grandement de sa pertinence. Elle vit j'ai l'impression, essentiellement à ce moment-là sur ses lauriers, sur la gloriole qu'elle continue à colporter, malgré le fait que les numéros sont souvent très inégaux et pas très intéressants. Et toujours est, non, mais il faut le dire. Et toujours est-il qu'il arrive à un moment vers la fin des années 90 où le comité actuel décide de mettre la clé dans la porte parce que d'une part ils sont financièrement dans le rouge, ça va vraiment très mal. Le lectorat a extrêmement baissé et bon, manifestement l'enthousiasme n'y est plus. Par contre, par un heureux concours de circonstances, il y a à ce moment-là sur le comité deux jeunes nouveaux membres, Karine Hubert, qui est encore avec nous, et Marc-André Brouillette, et qui, bon, vraisemblablement, grâce à l'enthousiasme de la jeunesse dont parlait M. Arsenault, on dit, en fait, non, nous, on refuse que la revue se termine. C'est une aventure intellectuelle qui a toujours sa pertinence. Et nous, on souhaite poursuivre. On ne veut pas que la revue s'arrête. Donc, le comité a dit à ce moment-là, ben, écoutez, les jeunes, vous faites ce que vous voulez. On vous la laisse. Lâchez-vous lousse. Et je ne sais même pas s'ils leur ont souhaité bonne chance. Ce qui en dit beaucoup sur la question de la transmission au Québec, mais bon, c'est une autre histoire et on n'a pas le temps d'en parler ce matin. Donc, toujours est-il que Karine et Marc-André, on pourrait dire héroïquement, ont tenu la revue à eux deux pendant quelques années. Ils ont assaini les finances, ils l'ont remis à flot. Et en fait, je pense qu'il faut dire, enfin, j'espère que la petite histoire va retenir leur rôle parce que sans eux, à mon avis, ils ont un rôle aussi important que celui des fondateurs parce qu'en fait, ils ont ramassé la revue et sans eux, donc, on ne fêterait pas l'an prochain le 50e anniversaire. Ceci dit, évidemment, on peut, si financièrement la revue sort du rouge puis se stabilise un peu plus, on peut dire que du côté éditorial, c'est évidemment pas encore ça. On peut imaginer qu'à deux personnes, comment dire, pisser quatre numéros par année, c'est loin d'être évident. Et ils développent une espèce de mode opératoire où on pourrait toujours dire qu'ils sous-louent la revue à différentes personnes du milieu littéraire, du milieu culturel, à qui ils demandent donc des gens qui sont pas sur le comité de diriger un numéro en allant eux-mêmes chercher donc des collaborateurs, etc. Et tout ça avance quinca jusqu'à ce que bon ils se rendent compte que c'est vraiment plus possible de commencer ainsi. Et qui demande en fait, qui se mettent à chercher des nouveaux membres. Et toujours est-il que ils font rentrer Louis-Jean Thibault, qui est, excusez-moi, qui est un poète de Québec, et qui me demande à moi, pour une obscure raison, de siéger sur le comité. Donc, j'ose avouer que ma première réaction face à cette invitation-là a été, mon Dieu, liberté, cette vieille chaussette trouée qui prend de l'eau de toutes parts, jamais de la vie. Et après ça, bon, je me suis dit, comme tout le monde, je suis assez conscient que les lieux de parole diminuent de plus en plus. J'étais à ce moment-là pigiste à Radio-Canada. C'était le début de la fin de la chaîne culturelle. Et je me suis dit, on a absolument besoin de lieux de parole et je vois pas pourquoi, en fait, on abandonnerait donc des lieux de parole à des gens qui osent pas donc les prendre en charge. Donc, bref, je me suis retrouvé là. J'ai reniflé un peu comment ça se passait comme un bon étudiant. Et donc, peu à peu, il m'est apparu, enfin, très, très clair que ce qui manquait principalement à Liberté, c'était de nouveau une ligne éditoriale claire. Pour moi, pour toute revue culturel, c'est un incontournable. Il faut absolument un point de vue pour aborder le monde, même si un point de vue va nous empêcher de voir certaines choses, c'est bien clair, mais sans point de vue, on voit rien. Donc, j'ai commencé à essayer d'amener le comité à réfléchir sur une ligne éditoriale, mais il y avait énormément de résistance. Et donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait rentrer sur le comité des gens qui partageaient mon point de vue. Et grosso modo, en fait, on a fait un putsch. On a, en quelque sorte, imposé le fait qu'il fallait absolument réfléchir sur une ligne éditoriale, que c'était pas possible de continuer ainsi. Et finalement, ceux qui résistaient ont quitté. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que la revue a repris un peu de coffre. On a été assez étonnés que dès le deuxième numéro, fait avec cette nouvelle direction qui était capitale mondiale, Montréal, capitale mondiale du livre. On s'interrogeait sur la tenue de l'événement qui a eu lieu, je ne sais plus trop, là, il y a 2-3 ans. Et assez rapidement, en fait, Liberté a eu beaucoup de visualité, comment, enfin, on s'est retrouvé dans beaucoup de médias. Il y a eu beaucoup d'articles. On a été invités à quelques émissions de radio, ce qui n'était pas arrivé à la revue depuis des lustres. Et puis, bon, depuis ce temps-là, enfin, depuis à peu près 2-3 ans, nos ventes en abonnement et en kiosque ont triplé, ce qui nous a permis, d'une part, d'augmenter les cachets aux collaborateurs, car, bon, même si on ne paye encore qu'un maigre 30 $ de la page, je suis toujours scandalisé qu'on paye très peu les collaborateurs des revues culturelles, surtout dans un contexte actuel où dans les années 60-70, les 3/4 d'entre eux étaient professeurs, ils pouvaient facilement faire ça gratuitement. La position de l'intellectuel aujourd'hui au Québec est souvent d'être chargé de cours, pigiste, etc. Et ne pas le payer, je comprends aussi en même temps que c'est pas évident de le payer, mais enfin, ça m'apparaît toujours absolument scandaleux. Donc, toujours est-il que, je sais plus où j'en étais, je sais pas combien de temps il me reste, mais ça va. Donc, tout ça pour dire que, pour répondre donc à cette fameuse question, une revue doit-elle mourir? À mon avis, non. Je crois que il y a toujours une possibilité pour une revue de renaître. Et le coup qu'on a fait à Liberté est, à mon avis, un bon coup pour deux raisons. Premièrement, effectivement, personnellement, j'ai beaucoup d'intérêt pour la question de la transmission. Et je trouve qu'au Québec, c'est passablement problématique. J'ai l'impression souvent que la devise du Québec, c'est pas « je me souviens », mais bien « c'est pas grave, on recommence ». Donc, évidemment, je trouve ça admirable. Puis il faut absolument qu'il y ait de nouvelles revues, justement, comme OVNI, qui il faut qu'il y ait de nouvelles entreprises qui émergent. Mais le fait qu'on s'inquiète si peu de la longévité de certaines entreprises et plus encore de nos institutions. Bon, je parlais de Radio-Can tantôt, la radio de Radio-Canada, c'est absolument terrifiant. Ce qui est arrivé là, on peut aussi penser à l'ONF des années 80, bon, qui s'est retrouvé complètement décati, alors que ça a été des lieux de réflexion et de création absolument formidables. Dans le cas des revues, c'est ce qui est intéressant, c'est que comme c'est des lieu plus petit, c'est plus facile. C'est à la fois, elles sont plus fragiles, mais elles sont plus maniables. C'est-à-dire que faire un putsch comme on a fait à Liberté, c'est à peu près impensable à Radio-Canada, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir le faire, mais ça me semble pour le moment à tout le moins impossible. Donc, je crois qu'il faut redonner aux lieux qui nous apparaissent à tort ou à raison moribonds un deuxième souffle. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, comme on le sait, les lieux où la parole peut se déployer sont tout de même assez minimes. Donc, je terminerai mon intervention en encourageant ceux qui se désolent devant, comment dire, le peu d'effort ou le peu d'originalité de certaines revues, de les investir, de les noyauter et de leur donner un second souffle. Merci.
Merci Pierre Lefebvre. Alors, à votre gauche, Patrick Coppens pour Brève littéraire. Alors, Patrick Coppens est né à Orléans. Jeune homme, il étudie la littérature à la Sorbonne et à l'Université de Tours. Venu au Québec en tant que coopérant culturel, il s'y installe en 1968 et devient bibliographe chez CDM, Service documentaire multimédia. Lavallois de longue date. Il est poète, écrivain, dessinateur, critique littéraire, animateur, éditeur. Il fonde en 1997 les Mardis de Port-Royal, un libre regroupement d'artistes qu'il anime chaque semaine. En 1985, il est au nombre des cofondateurs de la Société littéraire de Laval et il en est le président jusqu'en 1989. Il l'est de nouveau à partir de 2007 et il est aussi directeur littéraire de Brève, poésie, aphorisme, anthologie, essai, compilation de citations, bibliographie critique, récits poétiques. Patrick Coppens a publié quelques 25 ouvrages, souvent teintés d'humour, et dont il a illustré plusieurs. Il en a illustré plusieurs. Alors, je lui passe la parole. Son titre, nous ne sortirons pas des questions que vous venez de soulever, de quelques revues littéraires, défuntes ou vivantes.
Eh bien, j'ai choisi ce titre particulièrement drabe pour pouvoir faire ce que je voulais. Et je l'ai changé pour le chemin des revues et leurs traces de pages. J'ai prévenu nos valeureux organisateurs que je parlerais à bâton rompu, mais j'ai eu la prudence de ne pas préciser sur quelles échines ces bâtons seront rompus. Allons-y donc pour les bâtons rompus et oublions les échines. D'une façon générale, je parle mieux debout, hein, ce serait possible.
Allez-y, allez-y.
C'est parce que je suis comme Victor Hugo. Quand j'assois mes pensées, elles s'endorment. Toute proportion gardée, évidemment. Alors donc, à bâton rompu, quatre petites capsules qui s'appellent respectivement Brandon, déclaration de principe, promesses irresponsables et slogan. Brandon, une revue naît par conviction et fantaisie, meurt de lassitude, d'avoir trop rempli de conditions et de formulaires. Déclaration de principe. Je suis un homme de revue. Entre l'enthousiasme et l'indignation, j'oscille, ivre à jamais de cette vocation où je trouve mon équilibre. Slogan. Vous vous souvenez peut-être d'un slogan qui ne rimait même pas. Une journée sans vin est une journée sans soleil. Je vous propose. Une journée sans revue est une journée perdue, perdue pour la curiosité, pour l'intelligence, une occasion perdue de mieux comprendre notre époque et d'y participer sans crainte. Rideau. Il fait encore presque nuit. Un garçon de 11 ans attend sur le trottoir devant un rideau métallique baissé. Nous sommes à Orléans, en 1954. Que fait ce garçon qui cache mal son impatience en sautant d'un pied sur l'autre? Il attend l'ouverture du café-bar Le Lutetia pour se ruer sur le présentoir des journaux et des revues et pour mettre la main sur l'un des deux exemplaires de Petit Riquet Reporter, sa bande dessinée préférée. Cette lecture le marquera profondément car il deviendra l'homme centaure, amoureux des motos, comme Petit Riquet, et surtout, il voudra toujours, à l'instar de son héros, être là où l'action se passe. Ce garçonnet, vous l'avez deviné, c'est moi, et aujourd'hui, je me trouve ici, encore, au cœur de l'action. Voilà bien une anecdote capable de remonter le moral de nos troupes si besoin en était. Plus tard, les revues ont continué à avoir une grande importance dans ma vie. Qu'on en croit ma devise, je fonde à vue d'œil. Et mon épitaphe, d'abord haut en couleur, il finit par tomber. J'ajouterai d'ailleurs ce qui a été gravé sur la statue que la Société littéraire de Laval m'a remis après mon premier tour de piste qui a duré 5 ans. Ma fragilité est inébranlable. Il paraît que j'aurais dit ça, mais étonné que j'en dis tellement que je ne m'en souvenais pas. Donc, du Poteau Rose, fondé en 1965, à dernier numéro, fondé il y a une dizaine d'années, en passant par Brève littéraire, j'ai fondé 4 revues et participé activement à une 20aine. Je serai bref et tenterai de dompter ma prolixe nature. Je vous entretiendrai d'abord du Périscope. Cette section, j'ai pu la réaliser grâce à Claude Effly, qui m'a remis une étude de la revue qu'il avait fondée. Périscope est une petite revue fondée par Claude Effly en 1958, à laquelle je n'ai pas participé. Et en guise de méthodologie et de philosophie, j'emprunterai le titre d'un des livres de Claude, « Tout est faux, c'est le paradis ». J'ajouterai la définition de la clarté par Goethe, « une juste répartition d'ombre et de lumière ». Je vous entretiendrai ensuite de Repères, une revue québécoise diffusée dans le monde entier. Je finirai avec Brève littéraire, dont je suis le directeur littéraire et qui va bientôt fêter ses 80 numéros. S'il me reste du temps, je saluerai dernier numéro, organe secret des Mardis de Port-Royal, regroupement hebdomadaire, comme l'a dit Elisabeth. Donc je passe sur cette partie, et qui vient de fêter sa première décennie. J'aimerais saluer aussi Quoi, de Michel Beaulieu, Éther, de François Charron, Brèche et quelques autres étoiles filantes qui ont illuminé mon ciel, souvent nuageux. J'avouerai une tendresse particulière pour Steak Caché, revue underground à laquelle j'ai participé, fondée par un vrai de vrai, vivant palimpseste, j'ai nommé Denis Vanier. Comme annoncé, parlons de Périscope, cahier de poètes de langue française et, sauf erreur, revue pionnière de la francophonie. Dans un premier séjour à Montréal, de 1953 à 1955, Claude Effly s'est lié à Gaston Miron et Olivier Marchand, qui fondaient l'Hexagone, et à Roland Giguère, créateur des éditions Herta. Revenu en France en 1955, Claude Effly édite avec sa femme le Périscope pour maintenir les amitiés nouées à Montréal entre 1953 et 1955. Le cahier accueille Giguère, Miron, Marchand, Pilon, Bellefleur et Gérard Tremblay. Des Belges à partir du numéro 3, des Français, des Africains, mais à son grand regret, pas d'Algériens à cause de la guerre qui fait rage. Malgré son isolement girondin, Claude Effly, qui cultive des fraises, et sa femme publient 4 numéros par an, lesquels rejoignent 500 abonnés et font connaître 44 poètes et graveurs. Je vais boire un peu d'eau, si vous permettez. Le 8e et dernier numéro paraît en 1960. L'aventure se termine avec le départ de la femme de Claude Effly et de ses 2 enfants pour les États-Unis. Claude Effly revient au Québec en 1962 et ouvre une galerie consacrée à la gravure, galerie qui accueille largement les amis retrouvés. Merci beaucoup. Je veux maintenant parler de repères, index analytique qui permet de retrouver l'information parue depuis 1980 dans des périodiques de langue française publiés au Québec, ailleurs au Canada, en France, en Belgique et en Suisse. Ces périodiques sont de nature générale ou spécialisée et couvrent tous les domaines du savoir. La base repères depuis 1980 contient 617 revues indexées et 475 000 articles. En 2008, 243 revues sont indexées, dont 30 périodiques culturels. 26 des revues culturelles québécoises indexées sont membres de la SODEP, citons Jeu, Essai, Lettres québécoises, Liberté, Livre d'ici, Possible, Québec français, Spirale et Vie des arts. Ajoutons Voix et images. Je suis très attaché à Repères, puisque j'ai travaillé pendant presque 40 ans à Choix, le pendant de Repères pour les livres. Ce sont deux publications des services documentaires multimédia. Maintenant, pour retracer l'histoire de Brève, je me suis largement inspiré d'un texte de Claire Varin, qui a été présidente de la Société littéraire de Laval pendant 5 ans. Brève. Émanation de la Société littéraire de Laval et vitrine du dynamisme culturel de cette région, Brève littéraire est publiée à Laval depuis 1985, à l'origine sous le nom Le littéraire de Laval. La revue publiait au départ 3 ou 4 fois par an des textes courts inédits de la prose et de la poésie de moins de 1500 mots écrits par les membres de la société. Ce qui est encore aujourd'hui le cas après une longue période où l'on acceptait les textes de non-membres et issus de la francophonie. Contrairement à plusieurs revues littéraires, les numéros de Brève ne sont pas thématiques. Les directions successives ont privilégié depuis les débuts la diversité des thèmes et des genres. Jusqu'en 2007, la revue décernait ses prix de prose et de poésie, prix dorénavant attribué par la Fondation Lavalloise des Lettres, mais toujours géré par la Société littéraire, qui publie dans son numéro printanier les textes des lauréats et des finalistes. Elle diffuse aussi le prix intercollégial de poésie en collaboration avec le Collège Aounsic, autre manière d'encourager la relève. Excusez-moi. Des sections sont apparues et ont disparu au fil des dernières années. Une section consacrée aux essais, la section Les Feuilleurs, signalement d'ouvrage par votre serviteur en collaboration avec ESDM, la section D'une langue à l'autre, 2003-2007, proposant des textes en bilingue, une ouverture sur d'autres langues, allemande, créole, persane, portugaise, roumaine, vendate, d'autres mondes en ce monde pour éclairer notre propre langue et accroître notre inventivité. Grâce à cette section D'une langue à l'autre et au prix Brève littéraire, la revue a été remarquée dans divers pays du monde et en particulier au Mexique. D'autres sections sont nées récemment pour faire place à des micro-nouvelles ainsi qu'à des haïkus, des renku, de même qu'à une recension systématique des publications des membres de la Société littéraire de Laval qui acceptent en serrant des auteurs et lecteurs de toutes les régions du Québec. Prix du Conseil de la culture 2006 dans la catégorie « Animation et sensibilisation à la culture », Brève littéraire arrime les lancements de ses numéros avec des événements festifs tenus dans des bibliothèques, des librairies ou des restaurants pour concrétiser son ancrage dans la communauté. Numéro d'automne lancé selon les années dans le cadre des Journées de la culture ou lors du lancement collectif des membres de la Société littéraire. Numéro de printemps lors du brunch de la même société. Si certaines rubriques de la revue meurent ou naissent selon le désir des membres et au gré des changements de direction de Brève, le principal objectif demeure, publier des textes de qualité, accueillis dans l'enthousiasme, comme avec une bougie allumée, on en enflamme une autre. Je terminerai par quelques notes sur mes motivations personnelles. Je ne me sentais pas à l'aise dans le milieu littéraire, dont la mesquinerie était le moindre défaut. Et j'avais goûté à diverses formes de censure plus ou moins justifiée pour des raisons techniques, entre guillemets. Et j'avais le goût d'une liberté moins surveillée. Cette liberté, je m'empresse de le préciser, m'a été pleinement accordée par de nombreuses revues auxquelles j'ai participé. Liberté, Vice-Versa, Moebius. En particulier, j'ai publié des articles polémiques dans ces deux dernières revues. Des articles qui brocardaient quelques gloires du moment et de ces expériences salubres, mais parfois risquées pour ma carrière, j'ai retenu qu'il ne faut pas se tirer les cheveux avec ceux qui sont, comme l'a dit Prévert, chauves à l'intérieur du crâne. Et que, sous des airs anodins, certains bureaucrates sont redoutables. Ce sont bien, comme je l'ai affirmé dans le dictionnaire, des animaux malades de la veste. Excusez-moi de me citer, mais en matière de modestie, j'hésite entre André Mathieu, qui affirme qu'invoquer son expérience ressuscite nos erreurs, et mon ami Renaud Camus, qui écrit qu'il voit dans la modestie la plus obscène des vanités. En conclusion, pourquoi créer des revues? Pourquoi y participer? Pourquoi les protéger contre diverses épreuves ou au contraire les renforcer à l'intérieur de ces épreuves-là? Eh bien voilà ma petite conclusion. C'est le désir de faire autre chose, autrement, un mélange d'audace et de naïveté, comme l'ont dit les orateurs précédents. Un goût pour l'artisanat, car dans une revue, la partie strictement littéraire est beaucoup plus réduite qu'on se l'imagine. Voilà en toute modestie un début de recette. Il faut être bricoleur, avoir du doigté et surtout de la persévérance. Et finalement, un doigt d'idéalisme ne nuit pas au goût du résultat. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors maintenant, pour la revue Art le Savoir, je vous présente Denis Charland, qui se définit comme disciple de Durer, ce maître dessinateur et xylographe qui fera la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance italienne. Artiste et travailleur culturel, il dirige la revue Art le Savoir depuis 1990, 7 ans après sa fondation par deux poètes de Trois-Rivières. Son éclectisme et sa formation de graveur le conduiront tout naturellement à développer le caractère hybride de la revue. Il poursuit parallèlement à son travail d'édition une démarche artistique prônant la désobéissance institutionnelle et la quête de l'harmonie.
Et bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis très heureux que cet événement ait lieu, un colloque sur les revues culturelles. Je pense qu'il pourrait en avoir une par année et il y aurait de la matière. Alors bravo pour cette initiative. J'ai lu la publicité ou le feuillet qui annonçait ce colloque qui s'appelle « Cité à comparaître face à elle-même ». Cité à comparaître, c'est un terme un peu juridique, comme s'il y avait eu un meurtre ou bien un accident, on ne sait pas. Alors, je vais y aller peut-être d'une manière un petit peu anachronique. Je vais soulever certains points que m'ont inspiré cette démarche. Alors, j'ai intitulé ma présentation « Bouger pour ne pas mourir, mourir d'envie de poursuivre ». Je suis très content, je dis en passant, qu'à la table, il y ait des gens qui ont fait un premier numéro de revue et qui soient invités et qui soient sur cette table. Alors, la tragédie de la mort est en ceci qu'elle transforme la vie en destin. André Malraux. Nous mourons quand il n'y a plus personne pour qui nous voulons vivre. Lorsque l'on m'a invité à participer à ce colloque, j'ai été spontanément attiré par ce sujet, vie et mort des revues culturelles. Non pas que j'ai un penchant suicidaire ou encore que je craigne pour l'avenir de la revue Art le Savoir. Si tel était le cas, je n'aurais qu'à me saborder, qu'à ouvrir la trappe au fond du navire. D'ailleurs, il m'est arrivé assez souvent d'entendre des gens qui, d'une manière avec humour, me disaient « Allez-vous vous saborder? » Et ma réponse est celle-ci. Nous le faisons à chaque numéro. On meurt à chaque fois. C'est à recommencer à chaque fois. J'ai aussi pensé à la disparition de la revue Parachute, évidemment. Cette revue exceptionnelle qui est comme... qui est morte au sommet de sa gloire, je dirais. C'est une autre perte pour le monde des revues. C'est comme si nous perdions un membre. J'ai cru un moment qu'elle ressusciterait. Mais non, un trou béant qui demeure, que peut-être d'autres intervenants dans ces deux jours vont expliquer. Dans l'agenda de ce colloque, le sujet de la mort des revues est abordé en premier lieu. C'est un sujet grave, hein, dont il faut se débarrasser, hein, peut-être, pour être bien libre après coup. Le mois dernier, dans le cadre de notre 25e anniversaire de fondation du Sabar, nous avons réuni sur les murs de notre centre d'exposition les 81 revues réalisées à ce jour. C'est le numéro 81. Je n'en croyais pas mes yeux. Tant de chemin parcouru. Autant de sujets traités par plus de 1000 collaborateurs, artistes, poètes, auteurs. Je dois vous dire, réellement, j'en avais le vertige de voir tout ce travail accompli, comme on pourrait dire la même chose pour beaucoup de revues. Alors, donc, j'avais ce vertige tellement la somme de travail me semblait considérable. Comment a-t-on fait? Surtout en considérant le travail souvent fait bénévolement et où il y a des budgets très, très peu élevés pour les employés. C'est alors que j'ai réalisé, mais vraiment, que chacun de ces numéros ont été élaborés un à un, le regard porté vers l'avant. Une naissance après une mort annoncée. Chronique d'une mort annoncée, nous dirait Gabriel Garcia Marquez, sauf que nous avons la vie dure. Un petit peu pour terminer, quelques mots, un peu de lexique. Les temps morts, c'est un peu le temps que les revues ou les livres demeurent en kiosque ou en librairie. Ils demeurent souvent que 3 mois et disparaissent alors qu'ils sont remplis de temps, d'énergie et d'intelligence. La mort dans l'âme, c'est lorsque l'on constate le peu d'intérêt de certains politiciens pour les auteurs, pour les créateurs. La mort subite, c'est la disparition du feu sacré, le carburant de la création. La peine de mort, c'est ce qui guette une société qui ne respecte pas ses artistes. Voilà, j'ai d'autres notes, mais j'arrêterai ce moment-ci.
Merci beaucoup. Alors, il reste... On a vraiment été... Patrick, j'espère que tu es content de nous parce qu'on a tenu le temps exemplairement. Ça veut dire qu'il reste du temps de discussion. La seule contrainte, c'est de parler au micro, je crois. Donc... Alors...
Merci Patrick. Monsieur. Ma question s'adresse à Mathieu et à Pierre. Est-ce que la cohabitation transgénérationnelle sur un comité de rédaction vous paraît un défi insurmontable? Ou s'il faut que chaque nouvelle génération crée sa revue ou bien fasse un putsch?
D'une part, le putsch a été fait par des gens de différentes générations. Donc, et moi, ça m'apparaît en fait important que, et d'ailleurs, je rentrerai pas dans les détails, mais le putsch est fait contre des gens plus jeunes que moi, et en fait, on a aidé, en fait, bon, le comité en ce moment est composé de gens dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine et la soixantaine. Donc, je crois pas que c'est des questions générationnelles. Je crois que c'est des questions vraiment culturelles. Nous on était convaincus que pour reprendre la belle formule de Robert Richard qui est sur le comité, que l'art est une des conditions du politique. Et que il fallait absolument mettre ça de l'avant. Et ça, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour être d'accord ou non avec cette question-là.
Mais peut-être Mathieu, sur cette question.
Oui, ben moi, j'ai pas de... On n'a pas d'âge limite pour participer à OVNI, mais pour le moment, on est assez... La moyenne d'âge est plutôt autour de 30 ans. Je ne sais pas si... C'est probablement parce qu'on s'est... c'est une question de communauté, de réseau, de connaissances. On ne mettra pas de... ça ne sera pas interdit aux adultes à long terme.
Oui, monsieur.
Bonjour. J'ai le goût de relancer Pierre Lefebvre sur l'idée de putsch qui semble aller de soi. Lui-même, au départ, tu as dit c'est un bon putsch. Moi, j'y vois plutôt une reprise en main, une espèce de vision. On t'a invité comme rédacteur en chef.
Non, on m'a invité comme simple membre.
Simple membre, d'accord. Mais enfin, j'aime bien l'idée de vision, d'une espèce de leadership qui se dégage d'un groupe de discussion et qu'effectivement, pour moi, diriger une revue, y donner une vision éditoriale, c'est justement s'entourer de gens qui contribuent à nourrir cette vision-là. Et c'est une façon de renouveler, de redonner vie à la fois à une revue ou à toute autre organisation que je préfère à cette idée de putsch qui semble banalisée ici. Il y a des formes de putsch qui sont des putsch démocratiques. J'ai l'impression que les dernières élections fédérales sont une forme très démocratique de quelque chose que moi je considère comme un putsch. La société se transforme vers la droite, même si la majorité ne le veut pas. Fait que je trouve que c'est une notion avec laquelle il faut être prudent.
Ben, c'est-à-dire que face à des gens qui refusent la discussion, et qui refuse la discussion. Moi, ce qui m'embêtait à Liberté à ce moment-là, c'était l'absence de ligne éditoriale. S'il y en avait eu une, j'aurais pu dire la ligne éditoriale ne m'intéresse pas, ou elle m'intéresse. Non seulement il n'y en avait pas, mais il y avait une décision bien énoncée de ne pas en énoncer une. Et à mon avis, c'est quelque chose qui dans une revue et même dans toute entreprise de pensée, de création, est insoutenable. Donc, il faut aussi pas oublier, j'ai peut-être effectivement employé le terme « putsch » un peu à la légère, il y a quelque chose d'un peu de la boutade là-dedans, mais je crois qu'il faut pas hésiter à bousculer. Hein. Je crois beaucoup au fait que quand on dit prendre la parole, il faut la prendre. On est malheureusement dans un contexte où on ne nous l'offre pas souvent. Enfin, je ne sais pas si ça répond. J'ai l'impression que non, mais enfin.
Si. Oui, une autre question.
Oui, c'est une question plutôt un commentaire. Je la trouve intéressante, moi, cette discussion-là sur les générations, la passation de flambeaux. Moi, j'en suis un bel exemple parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir à... je l'espère, de ne pas avoir à faire le putsch. Mais il y a toujours chez nous, il y a eu AS, il y a eu un passage de flambeau, c'est bien fait. Et ça me questionne beaucoup sur ces générations-là, comment on les fait cohabiter ensemble, parce qu'il faut... Je crois qu'il faut qu'on soit conscient qu'à mesure que... Si on veut qu'une revue dure dans le temps au-delà de 20, 30, 40 ans, il y a effectivement des générations qui succèdent. Pas seulement des générations d'éditeurs, mais des générations de lecteurs. Et c'est beaucoup ce qui motive les changements qui se font à travers une revue, c'est qui sont les lecteurs et que veulent-ils? Mathieu parlait, ça m'a fait sourire, parce qu'il parlait de la recherche de la typo dans son magazine. Et Chez nous, nos graphistes, c'est une obsession, cette recherche-là de la typographie. Et je remarque que c'est vraiment une nouvelle attitude du nouveau lectorat, du nouveau client qui regarde beaucoup, non seulement le contenu, la forme, il faut se questionner sur la forme, et tellement la forme, mais jusqu'à la forme des lettres qu'on lit. Donc, ça, je pense qu'en fin de compte, c'est un peu ça qui va faire, c'est que ces générations-là de fondateurs de revues doivent, s'ils veulent continuer à travers la revue, doivent être à l'écoute du public, à l'écoute de ces changements-là de génération. Puis je pense que c'est un petit peu ce qui va faire la force, ce qui va faire que le flambeau va se passer de mieux en mieux, puis que les revues vont non pas s'éteindre, mais continuer à grossir et à se vendre et à intéresser le public. J'ai un petit commentaire aussi sur... ce que M. de Brève littéraire disait, une revue meurt d'avoir trop rempli de formulaires. Je trouve ça intéressant, je trouve ça vrai, mais à la fois, je dirais, attention. Parce que si on veut continuer à être financé par des fonds publics, si on veut continuer, et je pense que c'est la survie, c'est une partie de la survie des revues. Moi, je me bats pour qu'on ait des fonds publics parce qu'on sait très bien que ce n'est pas que nos revenus de lectorat et de publicité qui va permettre aux revues à vivre. Alors, on doit se battre dans une société, on doit se battre pour que la culture soit financée publiquement. Pour ça, quand on veut être financé publiquement, il faut passer par les formulaires. Il faut apprendre à aimer les formulaires et à s'en amuser ou à les contourner ou à faire en sorte que ça devienne quelque chose qu'on dit, bon, ben on y passe, mais ça nous sert. C'est un outil utile. Je donne ça comme exemple parce que je veux souligner la présence de Patrimoine canadien. Je vais peut-être en parler un peu demain, mais les fonds de Patrimoine canadien pour les petites maisons d'édition culturelle. Il y a plusieurs revues qui ont abdiqué devant la lourdeur des formulaires de Patrimoine canadien. Et c'est malheureux parce que ça a fait qu'il y a eu peu de revues qui ont été financées. Il y en a de moins en moins. Il y a des coupures épouvantable qui se crée de ce côté-là. Et on n'a pas le poids. On n'a pas le poids pour se battre contre des institutions comme ça parce qu'on est très peu de revues. Je dis « on » et on n'est même plus là, nous, AS. Mais il faut faire face à ces formulaires-là et continuer de se battre pour le financement public des revues.
Merci beaucoup. Oui, ça, je crois que... Oui, allez-y.
Vous en avez un. Je répondrai que... J'ai adopté deux stratégies. D'abord, j'ai créé des revues clandestines, genre Saint-Misda, ou au Mardi de Port-Royal, il y a 85 numéros, des numéros d'hommage. C'est distribué uniquement aux personnes qui sont présentes, de 12 à 35. C'est eux qui y contribuent. Et d'ailleurs, ça attire l'intérêt des bibliophiles, puisque le numéro zéro a dépassé la valeur de $250. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de revues qui obtiennent ce résultat financier. Et ensuite, puisque je me suis retrouvé, au fond, un peu contre mon gré, à nouveau président de la Société littéraire de Laval, on a rémunéré une DG qui est une administratrice professionnelle. Je sais parfaitement que si je suis un animateur relativement acceptable, je suis un très mauvais administrateur. Et c'est une des erreurs que l'on fait dans le milieu de croire que parce qu'on est un bon animateur, on se double d'un administrateur pertinent. C'est complètement faux. Mais par contre, il y a aussi le défaut inverse. J'ai eu affaire à des administrateurs qui prétendaient m'imposer une ligne éditoriale. Donc, j'ai connu tous les drames qu'on peut vivre avec ce double chapeau. Merci beaucoup de votre question et surtout de votre remarque.
Autre question. Jean-François Bourgeois. Bonjour. Gilles Dupuis.
Est-ce que tu voulais parler Jean-François avant ou...
Non, vous n'avez pas le temps pour les politesses.
Okay, on discute. Alors, écoutez, c'est plutôt des commentaires, mais qui pourraient soulever des questions. Une chose qui n'a pas été vraiment abordée, même si indirectement c'est en quelling, c'est la question des revues éphémères. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je vais défendre un peu ici les revues éphémères, même si c'est pas ce que je souhaite à OVNI, bien sûr, de faire un seul numéro. Mais bon, je rappelle que dans certains contextes, je pense à Georges Bataille, par exemple, avant de fonder Critique, qui est une revue, évidemment, qui est tout à fait bien établie, qui publie encore en France aujourd'hui, Bataille avait fondé une pléthore de revues qui n'ont fait qu'un, deux, trois numéros, qui ont duré quelques années ou tout au plus. Et c'était très important à l'époque où Bataille a fondé ces revues-là, même éphémères, parce que c'était un signe d'effervescence, évidemment, culturelle, intellectuelle. On a connu ça au Québec aussi. Il y a Liberté, qui était sur la longue durée, qui a eu un moment un peu difficile, puis qui s'est repris. Mais Parti pris, en 5 ans, c'est une brève durée quand même, a été très important pour faire contre-pied, contre-poids à Liberté, pour animer une époque de changement et au Québec. Et il y a eu des revue comme Brèche, je voulais faire allusion à Brèche, qui est très, pour moi était une revue très importante dans les années 70, mais qui a produit relativement peu de numéros. Donc, il y a peut-être un argumentaire aussi en faveur des revues éphémères à l'occasion, qui joue le rôle aussi de relance, d'animation, qui sont même le signe, je pense, d'une effervescence. Et c'est peut-être ça qui est en train de se perdre aussi un peu. Il n'y a personne qui va fonder une revue dans l'espoir qu'elle soit éphémère. Moi, j'ai, avec Dominique Garand ici, j'ai participé à une revue très éphémère, L'Impossible, fondée par André Baudet au début des années 90, qui a produit 2 numéros, donc, qui a bien tenu son pari d'être L'Impossible. Nous, quand on a fait ça, c'est pas dans l'espoir qu'on de faire seulement 2 numéros. Mais et dans ce cas-ci, je pense que la revue n'a pas joué vraiment le rôle qu'elle aurait dû jouer ou qu'elle aurait pu jouer. Mais dans d'autres contextes, il y a des revues qui ont cette fonction-là d'être éphémères, mais en même temps de marquer un espace, marquer un imaginaire, relancer la réflexion, etc. Donc ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait peut-être intéressant de cogiter un peu autour de ça. Mais aussi, autre chose que je voulais dire par rapport à la mort des revues, tu l'as quand même mentionné, Pierre, il y a certaines revues qui peut-être méritent de mourir aussi. Hein. Dérive, Vice-versa, qui sont des revues qui ont été très importantes des années 70, 80, 90, après l'échec du premier référendum, l'émergence de voix autres, de ce qu'on appelait les écritures migrantes et tout, ont joué un rôle fondamental, mais je pense que quand Vice-versa est disparu, il était temps qu'elle disparaisse. En revanche, une revue comme Parachute, là, je suis d'accord avec vous, pour moi, c'est un scandale. Parachute n'aurait pas dû disparaître, comme la radio culturelle de Radio-Canada n'aurait pas dû disparaître, comme Les Beaux Dimanches n'auraient peut-être pas dû disparaître pour faire la place à... Tout le monde en parle, mais ça, bon, on pourrait ouvrir une autre boîte de Pandore, là. Mais certaines revues doivent aussi mourir, doivent laisser la place. Et pour que d'autres revues peut-être plus... En syntonie avec ce qui se passe ou qu'est-ce qui est à venir, voit le jour. Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter des commentaires là-dessus.
Qui veut réagir à cette question? Peut-être M. Coffin.
Oui, j'ajouterais qu'il y a un certain nombre de revues dont l'absence se fait sentir. Par exemple, je pense à Laval, justement, à Troyes, qui était une revue qui faisait le pont entre les revues culturelles et les revues universitaires, qui était dirigée de main de maître par mon ami Anne-Marie Alonso, et dans lequel l'érudition s'associait avec une certaine fantaisie. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, l'érudition carnavalesque, pour ne pas dire tintamaresque. Voilà. Et dans les revues, justement, à brève échéance, qui ont eu une grande importance sur l'évolution intellectuelle d'un certain nombre d'entre nous. Il y a Quoi de Michel Beaulieu, dont je ne connais que 2 numéros dans les années 71, mais c'est là que j'ai découvert Raoul Duguay, c'est là que j'ai découvert Zéro le gel, j'ai su beaucoup plus tard qu'il s'agissait de Gilbert Langevin, c'est là que j'ai découvert Luc Racine, un magnifique poète trop oublié. Bon, alors donc, revues éphémères, mais avec un effet durable. Et je vous rappellerai aussi que le Disque Vert, la revue surréaliste belge, avait 132 abonnés, et en reprint, par mes étudiants, qui ont été mes étudiants, les frères Place, ils ont tiré à 23 000. Alors donc, la mort d'une revue n'indique pas que son influence est terminée. Et aussi, je voudrais préciser qu'il y a une revue de Georges Bataille qui n'a eu que 2 numéros, je crois, qui a eu une grande influence sur ma vie, puisque Bataille était un ami de mon père. Et c'est Acéphale, si je me souviens bien. Et quand j'allais dans la bibliothèque, bon, je regardais les illustrations des livres érotiques que mon père, pour lesquels mon père a une prédilection, mais je sortais aussi avec une grande dévotion les grands formats de la revue Acéphale. Alors merci d'avoir souligné que les intellectuels ont généralement tendance à fonder un lieu où ils veulent parler par eux-mêmes et sans contrainte. Et ça, j'ai vécu ces contraintes-là et sans comprendre vraiment les raisons. C'est vrai que quand on est lié, qu'on est lié à aucun mouvement idéologique, on est suspect. Et alors, c'est mon cas. Je crois qu'en anglais, on dit « loose cannon ». C'est ça. Bon, alors, si on ne sait pas sur le pont de quel navire ce canon se promène. Voilà. Merci beaucoup.
Merci. Jean-François Bourgeot.
Oui, ben, je ne vais pas répéter ce que tu dis. C'était sur la question de la disparition, sur laquelle je voulais revenir aussi, parce qu'on a tendance à évaluer la mort d'une revue comme un événement, bon, sinon catastrophique, du moins déplorable. Il y a des revues qui sont créées pour être éphémères dès le départ, comme je l'en parlais, mais il y a le cas aussi des revues qui sont les institutions et dont les acteurs choisissent quand même de disparaître. Et c'est une décision concertée. On parle de parachute, mais j'ai à la tête la nouvelle revue Psychanalyse, qui marchait extrêmement bien, qui a décidé du jour au lendemain de fermer boutique. Et puis les abonnés étaient déçus, les lecteurs étaient déçus, on l'attendait, il y avait une avidité de parution. Et quand on a demandé à Pontalis s'il était désolé de ce geste-là, il a dit « absolument pas ». La revue avait fait son temps. Il était temps qu'elle disparaisse. Et il y a quelque chose là-dedans qui est presque plus radical que la disparition d'une revue qui était faite pour être éphémère, parce que celle-là, bon, c'est Orpheus, c'est, les revues d'avant-garde sont faites pour disparaître très vite. Je ne sais pas si OVNI fait différence comme titre à ça, parce qu'un OVNI, ça passe et ça disparaît, mais je ne le souhaite pas non plus. Mais il me semble qu'il y a un autre cas, là. Il y a le cas de la revue qui est une institution dont tout assure qu'elle puisse durer par les subventions, etc., mais qui décide malgré tout, par nécessité interne, de disparaître, parce que c'est le temps de disparaître.
Sur la disparition, je voudrais vous repasser la parole parce que vous avez dit on meurt quand le fait qu'on vive, quand il n'y a plus personne pour qui il est important qu'on vive, ce qui me paraît être un peu le cas de figure que tu dessinais, Gilles. Alors peut-être là-dessus, vous avez aussi dans votre intervention dit quelque chose sur quoi je crois qu'il est important de revenir, c'est la revue par sa nature même, à chaque numéro est à la fois une fondation et un risque de sabordement, pour reprendre, on ne dit pas ça, on dit sabordage. En tout cas, cette espèce de... Il y a quelque chose d'autonome qui se passe au moment où une revue sort. Alors, peut-être vous entendre sur ces questions-là.
Oui. La revue, en fait, on investit beaucoup de temps. On travaille avec différents collaborateurs pour sortir un titre, un des numéros. Et on investit la totalité de nos énergies sur ce numéro-là. Et dès qu'il tombe en kiosque, dès qu'on le reçoit de l'imprimerie, on commence à travailler sur le suivant. Il y a une forme de frustration de ça et il y a une habitude à faire en sorte qu'on se sente pas dépassé par la chose. Aussi, une chose importante aussi, c'est le tirage des revues. On a l'impression parfois de pas avoir l'écoute qu'on souhaiterait parce qu'on vend, on a 200, 300, 500 abonnés. Alors que dans le domaine de la littérature, entre autres de la poésie, un livre de poésie, en moyenne, il s'en vend environ 150 à 200. Alors, rejoindre 150 et 200 personnes dans des créneaux précis, comme les nôtres, bon, ça peut être justifié, ça peut être valable aussi. Voilà.
Merci. Une autre question? Oui, monsieur.
Oui, bonjour. J'aimerais vous entendre sur... votre rapport au monde, là, dont parlait Pierre, c'est-à-dire dans quel monde se déploient vos revues et justement, qu'est-ce que vous voulez instituer comme rapport entre la revue et l'époque dans laquelle vous vivez?
J'ai pas la prétention d'instituer... quoi que ce soit. Surtout, en fait, c'est que je crois pas... Enfin, je crois beaucoup à l'effet onde de choc de la culture, mais assez peu à son rapport, disons, direct. Pour moi, bon, la fameuse phrase de Sartre qui dit « À côté d'un enfant qui meurt de faim, la nausée fait pas le poids », j'ai toujours trouvé ça, comment dirais-je, insignifiant, parce que pour moi, le problème peut pas se poser comme ça. C'est-à-dire que, bon, ce que je... ce qu'on essaye de faire en ce moment à Liberté, justement, on est parti donc de cette idée qui était en fait au fond l'idée des fondateurs de la revue que la littérature et la politique sont liées. C'est-à-dire que l'art même est une condition du politique dans la mesure où une œuvre, disons au sens fort du terme, peut faire une grande œuvre, tu sais, peut faire des percées dans les idées reçues et dans les idéologies. Et à partir de là, bon, le politique peut toujours, d'une manière ou d'une autre, prendre le relais. Mais bon, ça peut prendre toutes sortes de façons et ça peut prendre aussi beaucoup d'années. Je dis, bon, à la limite, on peut dire que politiquement, les droits de l'homme tels qu'on les conçoit aujourd'hui, juridiquement, viennent des Lumières. Ça se fait malheureusement pas. Je veux dire, il n'y a pas un roman qui sort, puis une législation 6 mois plus tard. Donc, ce qui est à la fois heureux et malheureux, à mon avis. Mais toujours est-il que je crois que les revues peuvent jouer, disons, en partie ce rôle-là de questionnement et surtout de moi c'est bon ce qui nous intéresse à Liberté c'est de forcer ou enfin d'inviter des gens qui ont peu l'habitude de prendre la parole et de les amener à réfléchir. C'est-à-dire qu'on est on invite assez peu d'universitaires. On va plutôt chercher des dramaturges, des poètes, des cinéastes, enfin toutes sortes de praticiens à qui on ose assez peu demander. Enfin, actuellement dans les médias, on a l'obsession du spécialiste. Et moi j'aime bien le généraliste. Pour moi, l'artiste et l'intellectuel, idéalement, c'est le bon gros médecin de campagne qui se promène à la fois les pieds dans la boue et à la fois avec ses instruments aussi stériles que possible pour pas. Enfin bref, toujours est-il que j'aime les généralistes et à mon avis, donc je sais plus trop c'était quoi ta question, mais toujours est-il que donner la parole aux généralistes m'apparaît justement une façon de déjouer. Écoute, dans une très humble mesure, le setup de la prise de parole contemporaine, si je puis m'exprimer ainsi.
Une autre question?
Je vais faire du pouce sur les propos de Denis sur la mort qui survient à chaque nouvelle parution. Mais il y a un aspect un peu tragique là-dedans qui me fait penser au monde des documentaristes. Où les documentaristes que j'ai interviewés, à un moment, ils disaient, mais les gens se sentent abandonnés. Ceux avec qui on a travaillé se sentent abandonnés quand on quitte un documentaire pour aborder un sujet complètement nouveau. C'est comme si on était des gens qui vivaient de grandes passions amoureuses, mais changeaient de partenaire à chaque fois. Et j'ai l'impression qu'il y a des liens, qu'il y a des liens qui créent des deuils à chaque fois. Je ne sais pas si c'est partagé, là. Mais je le vis avec un certain malaise.
On a trouvé une façon un peu d'atténuer cet effet-là en faisant des numéros thématiques sur des sujets traités sur quatre ou cinq aspects d'une préoccupation. Alors, c'est plus un bloc là, à ce moment-là, dans le temps qui dure une année et demie, là, qu'on travaille sur le même sujet. Alors, on a moins de deuil. Le deuil est moins lourd. Mais on le ressent vraiment, hein, ce que je vous disais, là, ce sentiment là, de ne pas en profiter de ce qu'on a fait, de ne pas le revoir. Et j'allais aussi, une autre chose importante là, que j'ai constatée, c'est qu'on oublie ce qu'on a fait pour les revues plus anciennes. On oublie ce qui a été fait il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a des thèmes qui reviennent sans qu'on s'en rende compte. Et il y a plein des numéros d'il y a 15 ans sont aussi intéressants que les derniers, puisqu'ils sont souvent pas reliés à une temporalité ou à une actualité. Ils sont reliés à une activité de réflexion, beaucoup plus qu'une actualité d'événements. Alors, donc, aller voir en arrière aussi, c'est une chose que je vais faire davantage, moi, aller voir ce qu'on a fait. Puis aller voir les autres vues aussi, là, si je peux avoir du temps aussi, c'est sûr.
Excusez-moi, et justement, pour les situer, l'index analytique repère est idéal, puisqu'il y a un accès thématique, il y a un accès, donc on remonte jusqu'à 1980. Et ce que tu dis, là, ça justifie encore davantage l'importance de ces revues qui ne sont pas strictement littéraires, mais qui sont au service de la culture au sens large du terme.
On a le temps pour une autre question. Alors moi, j'en poserai bien une petite, si Patrick permet. Pour Mathieu, vous avez parlé d'individus. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est lié à la question de la vie et de la mort, mais vous avez parlé d'une volonté d'avoir des chroniqueurs réguliers et de faire reposer l'identité de la revue sur ces chroniqueurs réguliers. Et sauf erreur, vous n'avez pas prononcé le mot « équipe ». Alors, je voudrais juste vous entendre sur le fait, aucun jugement de valeur de ma part, simplement, est-ce qu'on n'est pas dans des zones un peu différentes si on fait reposer l'identité d'une revue sur des individus et que ce soit un choix par rapport à ce qu'on ferait si c'était sur un groupe?
Ben, faut dire qu'on est... Le choix de cette équipe-là s'est fait en fonction d'individus. Chacun a été recruté sur la base de ses idées ou des textes qu'il avait écrits. Puis c'est à partir de cette somme d'individus-là qu'il y a des influences qui se dessinent petit à petit. Mais c'est vrai qu'on essaie de privilégier l'émergence d'espace particulier. Puis sur la question tout à l'heure de la passion amoureuse, justement, le fait que ces chroniqueurs-là soient réguliers, ils ont aussi les mêmes obsessions, les mêmes réflexions, ce qui fait que moi, je me vois très bien reparler d'œuvres ou d'individus ou d'artistes ou de problèmes qui m'obsèdent, qui me marquent, comme il y a deux ou trois fois où je mentionne dans les prochains numéros la conspiration dépressionniste, qui est un autre petit groupe avec lequel on a certaines affinités, mais c'est de cette manière-là qu'on voit le travail de rédaction individuelle. Pour ce qui est de l'équipe, ben on essaie dans la mesure du possible de faire en sorte que tout le monde puisse se lire et se commenter. C'est important parce que, justement, si on ne fait pas ce travail-là, c'est là qu'on va s'en aller dans toutes les directions. Et puis peut-être qu'on va avoir des règlements de compte à un moment donné. Ça va être intéressant à lire.
S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on arrête. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les participants d'avoir respecté le temps à la lettre et de leurs commentaires, de leur générosité. Merci.